Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse. Albert Camus disait que le peu de morale qu'il avait apprise, c'était sur les scènes de théâtre et sur les terrains de football. Le match de foot, une scène de théâtre qui se joue à 22 pendant 90 minutes, unité de lieu, de temps et d'action, où se joue le destin d'une ville, d'une nation, car comme le disait Orwell, le foot est la continuation de la guerre par d'autres moyens, un jeu de pied et de malin qui enflamme les spectateurs et les téléspectateurs du monde entier, car il s'agit du sport le plus populaire de la planète. Mais au fond, que raconte ce jeu sur nous, sur nos sociétés, notre histoire, notre identité? Comment expliquer une telle passion mondiale? Peut-on tirer une philosophie du foot? Et puis, nous essaierons d'esquisser une psychologie du joueur en s'appuyant notamment sur l'épaule d'un géant de la discipline, Zinedine Zidane. Et vous racontez-nous votre passion ou votre horreur du foot au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de l'émission. Bonjour Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Bonjour Ali.
On retrouvera évidemment vos questions pertinentes.
Voilà. Vous aimez ça le foot? Je vais rester sur le banc pour l'instant.
Vous aimez le foot?
Ouais, je suis bien
bon,
sûr.
Très bien. Bonjour Eric Libio.
Bonjour Ali.
Alors on le sait tous, hein, dans cette émission, vous êtes plutôt rugby que foot. Mais vous restez quand même?
Hein, oui, je vais rester, bon. Je vais parler Oulipo et hors-jeu, ça vous dérange pas.
Voilà, et ce seront vos dernières choses presque vues, enfin, de la saison, je rassure vos fans. Allez, bienvenue dans Grand Main vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour François Darrocha.
Bonjour Ali Rébéi.
Que je suis heureux de retrouver dans cette émission. Vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des joueurs de l'équipe de foot. Ce fut l'objet de votre thèse à l'université d'Artois. Et vous avez publié aux éditions du Détour, Les Bleus et la Coupe de Copa Mbappé. Que raconte votre passion du foot et de l'équipe de France sur vous?
Sur moi? Certainement que je suis un historien avant tout.
Voilà, d'un point de vue personnel.
D'un point de vue personnel, mais la personne de l'historien est indétachable de la personne dans son ensemble. Je pense un attachement ancien, un attachement d'enfant au départ, et la chance, bien sûr, de travailler comme historien sur sa propre enfance, finalement. Donc une forme de psychanalyse collective, certainement.
Quels sont vos premiers souvenirs de foot?
Les premiers souvenirs de foot, c'est certainement la Coupe du Monde 1978, avec Jean-Paul Bertrand de Man qui se fracture la colonne vertébrale, enfin le dos, qui se blesse au dos lors d'un match contre l'Argentine, et puis certainement également Omar Sanoun qui décède au cours d'un entraînement avec son club de Bordeaux.
Vous avez de beaux souvenirs,
n'est-ce pas,
François Darrocha? Bonjour Gilles Verviche.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie et vous avez publié en 2010 De la tête aux pieds, philosophie du football.
Ouais.
Un ami me faisait la réflexion hier, foot et philosophie, eh bien c'était deux mots qui n'allaient pas ensemble, que c'était presque un oxymore. Qu'est-ce que vous répondez à cet ami pas sympa?
Je réponds que les préjugés vont bien dans ce sens-là, c'est-à-dire que moi, quand j'avais sorti mon livre sur la philo du foot, je me suis rendu compte que les philosophes d'une part et les footballeurs de l'autre, ne voyaient pas le rapport avec l'autre, mais finalement, vous avez cité Camus, hein, on a compris qu'effectivement, c'était le creuset de ce lien. Camus, qui est devenu quand même philosophe, était au départ gardien de foot.
Vous vous définissez comme un fan de foot?
Fan, amateur, je ne suis pas fan, je ne vais pas connaître tous les matchs, le Sedan-Nice de 1992, le dimanche à minuit, mais voilà, pour tous les gros événements, effectivement, depuis plus de 20 ans, je suis pas mal. Oui.
Et vous, vos premiers souvenirs d'amateur de foot?
Alors moi, mon problème, c'est bon, déjà, en tant que joueur, j'étais jamais pris. Hein, j'étais à l'école, on prenait toujours en dernier, on prenait pas en fait, j'étais celui qui restait. Et puis, je sais pas si mes souvenirs sont vraiment personnels ou liés aux retransmissions perpétuelles, parce que c'est le match avec France-Allemagne, là, ou avec le
1982.
Voilà, c'est ça. Et donc, comme on l'a tellement revu, je pense, mais voilà, mais je me souviens de dimanche chez tonton Victor, on regardait le foot et c'était Platini qui jouait.
Tiens, première question, comment expliquez-vous la ferveur mondiale que suscite ce sport d'un point de vue philosophique?
Alors, d'un point de vue philosophique, c'est philosophique, sociologique, je sais pas, j'aurais deux interprétations, une un peu cynique et puis une un peu, voilà, celle un peu cynique, c'est de dire que finalement, c'est la retransmission qui fait quand même l'audience du foot. Dans mon petit bouquin, j'avais rappelé qu'en 84, quand les droits avaient été rachetés, etc. Enfin, ça peut être un peu artificiel, voilà, c'est-à-dire c'est aussi les professionnels du foot qui ont su le populariser. Après, on peut l'expliquer peut-être de manière plus simple, vous parlerez peut-être peut-être des règles tout à l'heure, j'ai cru comprendre, mais par le fait que les règles sont finalement assez simples. On a tout joué au foot quand on était petit. Tu prends un pull, un t-shirt, tu le mets au fond du champ et puis tu peux faire un match, quoi. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire pour y jouer. Tout le monde peut y jouer.
François Darrocha.
Oui, c'est juste. Et puis, il y a certainement aussi le succès d'un processus venu d'Angleterre, qui est le processus de capitalisme industriel et la diffusion du football est un des éléments de ce processus-là. Par ailleurs, en effet, il y a toute la médiatisation organisée par le monde du football qui a su surmonter les difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans les années 60-70 à s'imposer comme le sport populaire par excellence.
Bonjour Sabine Calgary.
Bonjour Ali Rébé.
Vous êtes psychanalyste et vous publiez chez Nouveau Monde Édition Dans la tête de Zidane. Oui. Alors pourquoi la psychanalyste que vous êtes s'est intéressée au foot en général et à l'un de ses dieux en particulier, Zinedine Zidane, communément appelé Zizou?
Alors pour ce qui est du football, c'est comme un fleuve, c'est la confluence de plusieurs courants. D'abord, je suis comme une petite fille du football, j'allais très tôt au stade avec mon père, c'était un des liens entre nous. Et peut-être ce qui me plaisait le plus dans le football, c'est ce que Souchon a chanté comme foule sentimentale. C'est-à-dire, c'est cette ferveur qu'il y avait dans les stades. Je crois que c'est la première chose par laquelle j'ai été touchée autour du football. Et puis, je suis devenue psychanalyste et j'ai adoré l'auteur Stéphane Zweig et ses portraits de grands personnages historiques. Enfin, j'appelle ça des biographies d'âme. Et Zidane est arrivé sur la scène du football. Et pour moi, j'ai eu envie d'écrire sur ce personnage hors norme parce qu'à la fois, il incarne l'amour fou du football. Enfin, il le porte dans son corps, dans son jeu, dans son art. Mais aussi, au-delà du football, au-delà du sport, on a accès à une personnalité exceptionnelle, à un être humain hors norme. Donc, c'est la rencontre de tout ça qui a fait dans la tête de Zidane.
Alors, d'un point de vue psychanalytique, que raconte notre ferveur collective pour ce jeu de pied?
Déjà, je pense que chez l'être humain, il y a un désir fondamental, archaïque, d'être ensemble et de partager des émotions. Donc la psychanalyse l'explique, Freud en a parlé dans sa psychologie des foules et analyse du moi. Il y a une sorte de contagion des émotions. Lui, il l'a fait autour d'un pensionnat de jeunes filles et de la contagion de l'état amoureux. Mais c'est pareil dans un stade. Le fait de partager des émotions ensemble, d'être ensemble, ça démultiplie les émotions. Donc ça dit quelque chose d'éternel de l'être humain. Et bon, il y a de multiples raisons, mais pour moi, ce qui me frappe dans le football, c'est la force d'identification de l'être humain. Nous sommes des êtres qui nous identifions en permanence dans notre vie pour vivre, pour vibrer, pour nous inspirer. Et le football se prête magnifiquement à ça. Nous nous identifions à l'effort, nous nous identifions à la victoire. Et là, les neurosciences commencent à nous expliquer comment ça fonctionne. C'est-à-dire, nous avons dans le cerveau des neurones miroirs. Et pour ces neurones miroirs, il n'y a aucune différence entre être témoin d'une expérience ou la vivre dans son corps. Donc, quand vous êtes face à un match de football, la biochimie cérébrale qui se déclenche, c'est la même que si vous jouiez le match. Alors ça, on s'identifie à la victoire, à l'effort, on s'identifie à l'expert aussi. À travers le football, on devient joueur, on devient entraîneur, on devient commentateur. Personne ne se sent expert d'une course de ski ou d'une compétition de natation. Par contre, nous avons tous le langage du football que nous partageons à ce moment-là, un langage commun par lequel nous nous identifions à l'expert. Et nous nous identifions à des idéaux nationaux aussi à travers le football. Il y a une fierté nationale qui est très forte. Peut-être particulièrement en France, en ce moment où on a un peu perdu du terrain dans l'industrie, dans la science, dans la recherche. Nous, aujourd'hui, on a la mode ou le luxe et notre équipe de football. Et chaque Français s'identifie à ses joueurs. Je crois que l'un de vos invités le rappelait. C'est pas, il parlait du parallèle avec l'Angleterre. En France aussi, c'est pas un hasard si la ferveur du football est née dans des villes comme Lens, Lille, Saint-Étienne, donc en Angleterre, Liverpool. C'est-à-dire des personnes qui peut-être pouvaient se sentir comme pauvres et qui avaient envie de dire, nous, on n'est pas des moins que rien, on a notre fierté à travers le football. Donc cette force d'identification qui est présente chez l'être humain dans toutes ses activités, elle est particulièrement visible et ardente dans le football.
François Darrocha.
Oui, il y a une force d'identification campaniliste, en fait, de ville en ville, où on peut se retrouver en effet derrière un club, mais il ne faudrait pas non plus exagérer l'aspect social. Il ne faut pas oublier, par exemple, pour Lens, que le club lui-même, il est fondé par les patrons.
Oui. Gilles Verviche, Sabine Calgary a raison, hein, le foot semble répondre à l'une de nos aspirations profondes, vivre de grands sentiments emplis d'idéal.
Oui, dans mon petit livre, j'avais fait ça, justement, j'avais parlé des miroirs. On voit un moment dans Indiana Jones, t'as des miroirs qui se répondent pour justement décrire les foules sentimentales. Mais il y a quelque chose d'ambivalent, enfin, on en parlera peut-être plus tard ou pas, mais dans le football, finalement, alors, faudrait distinguer les joueurs et les spectateurs, mais il y a quelque chose de ce que Kant appelait l'insociable sociabilité, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois un principe d'union et de désunion. C'est-à-dire, à la fois, on aime bien vivre cette aventure collective, et en même temps, on le sait, dans l'affrontement entre les équipes, il y a aussi un plaisir de haïr l'autre ou de voir d'en venir à la violence, mais en même temps c'est pas, il faut une cause commune, un ennemi commun pour pouvoir s'unir. Alors après, ce qui est étonnant, alors à parler de problèmes d'industrie, d'économie française, quand on voit effectivement les résultats des élections de dimanche où personne n'y va, et puis on s'unit autour d'une équipe de foot qui va quand même pas fondamentalement changer nos vies à la fin, c'est un peu étonnant. Enfin, l'impression d'une vie par procuration quand même.
Et au foot, on éprouve des sentiments d'autant plus forts qu'on les partage avec les autres. Vous citez dans votre livre le philosophe écossais David Hume, qui écrivait « Réduisez un homme à la solitude et il perdra toute joie ». Et c'est pour cela que regarder un match seul n'a pas du tout la même saveur que de le regarder dans un bar ou à la maison avec des amis.
Oui, bah oui, on cherche tous à faire cette expérience, hein, mais même d'ailleurs quand on va au cinéma, les émotions sont un peu démultipliées. Alors, c'est ce que Hume appelle la sympathie, hein. On pourrait croire que la sympathie, c'est alors littéralement, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'empathie, peut-être. On pourrait croire que c'est quelque chose d'un peu généreux, souffrir pour l'autre, compatir à son malheur par générosité, mais finalement on se rend compte, c'est parce que c'est en ressentant les émotions ensemble que moi-même je les ressens d'autant plus fort, d'où cette image effectivement assez bonne du miroir.
Et à propos d'enthousiasme communicatif, Hume écrivait « Les esprits des hommes sont des miroirs les uns pour les autres parce que chacun d'eux réfléchit les émotions des autres. Voilà. » François Darrocha.
Oui, alors je suis dans une position un petit peu particulière parce que face à un match de foot, je suis dans mes archives. Donc ce n'est pas grave si je suis tout seul. Au contraire, l'historien a l'habitude de travailler tout seul face à ses archives. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une identification et une pulsion collective qui peut être fascinante, surtout lorsque le LOSC bat le PSG glorieusement.
Question de Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle.
Oui, vous évoquiez Gilles Verviche au début d'émission, Tonton Victor, Sabine Calgary parlait aussi de souvenirs avec ses parents. Il y a cette dimension-là qui est essentielle dans le football, et j'avoue que je ne trouvais pas d'autre exemple, ce côté intergénérationnel. Le grand-père, si possible, en tout cas le père, les enfants... Plus récemment, messieurs, mesdames, on retrouve la famille réunie pour voir un match de foot. Et ça, c'est quand même unique.
Oui, alors c'est peut-être d'ailleurs ce qui explique que certains sont plus rugby que football, hein. Voilà, moi je me souviens de ces matchs-là. J'ai aussi une famille du côté du sud de la France, donc le rugby j'accroche pas mal. Bon, on est dans la nostalgie, dans le souvenir de l'enfance. Moi je me souviens d'avoir vu un match, alors c'était historique, hein. À l'époque je viens de Rouen, donc comme je le répète avec mon accent d'Arouen, et j'ai vu un match Rouen-Toulon, ça devait être en 82 quand Rouen était en Ligue 1. Le truc c'est préhistorique.
Première division
à l'époque, voilà, au stade Robert Diochon. Alors depuis, je sais pas ce qu'ils sont devenus, mais en tout cas, voilà, ça fait des souvenirs. On était allé avec l'école et dans cette nostalgie, il y a l'attachement au foot. Encore une fois, à mon avis, parce que les règles sont assez simples à comprendre. Sur le rugby, c'est un peu moi qui connais bien le rugby, j'ai toujours pas compris toutes les règles.
Et dans votre sens, Marie-Laure Sunshine, Christine nous écrit, j'ai 58 ans et pour moi le foot, eh bien ce sont des souvenirs d'enfance, des matchs regardés avec mon père et mes frères, des après-midi entiers à tirer des buts dans la pelouse, le stress avant de regarder les matchs, l'épopée des verts de mon adolescence reste marquée dans mon cœur pour toujours.
Mais c'est aussi ce que chante Michel Jonas lorsqu'il parle de Coppa Piantoni Fontaine. Et il y a ce souvenir d'enfance, en effet, où on identifie l'âge glorieux de l'enfance, ou supposé comme tel, à quelques personnages de foot.
Oui, juste, c'était assez paradoxalement, moi j'ai un mauvais souvenir d'adolescence, je raconte un peu dans le livre, c'est-à-dire que la première fois que j'ai passé l'agrégation de philo, donc pour être professeur de philo, je l'ai raté le jour où je venais d'apprendre que je le ratais, j'allais voir mon frère et j'entendais sur les balcons le match de quart de finale France-Italie qu'on a gagné au tir au but, et finalement, paradoxalement, c'est ce jour d'échec pour moi qui a marqué la naissance de mon goût pour le football, alors voilà, peut-être par vase communicant.
Sabine Calgary, il y a donc un homme qui a suscité de la joie auprès de dizaines de millions d'individus, c'est Zinedine Zidane, qui est devenu un mythe. Pourquoi est-il devenu un mythe célébré avec ferveur partout dans le monde ?
Déjà, pour rebondir sur ce qu'on disait à l'instant, il y a dans le football comme une sorte d'antidote au silence. Parce que si dans la famille, il y a ce lien à travers le football, c'est parce que parfois, c'est pas facile de parler dans les familles. Donc là, à travers le football, il y a un lien qui permet de se substituer à la parole pour des êtres de silence. Zinedine Zidane, c'est quelqu'un qui a grandi dans le silence, donc la culture berbère, ce que lui a transmis son père, c'était vraiment une vertu du silence. Et lui, son langage, ça a été le football. Donc à travers le football, il a exprimé beaucoup plus que le jeu, il a exprimé tout ce que peut être un être humain. Et ça, je pense que les foules le sentent. C'est-à-dire, quand on regarde la trajectoire de Zidane, elle nous parle d'un art et d'un don incroyable qu'avait, par exemple, Pelé et Maradona. Mais Pelé et Maradona sont restés dans notre culture commune et même dans notre inconscient collectif des figures de la virtuosité footballistique, ce que va certainement rester Messi, par exemple. En revanche, Zidane, il est bien autre chose. Parce qu'à travers la trajectoire de Zidane, nous ne vivons pas que du football, mais nous vivons tous les thèmes qui peuvent constituer l'existence d'un être humain. Nous vivons un lien au père très fort, une passion pour le père. Nous vivons l'histoire d'un couple que l'on voit, que l'on suit aussi. Donc ce couple fusionnel qui dure, mais qui a aussi connu des tourments. Nous vivons des gestes fous que parfois on peut ne pas comprendre. Est-ce que vous, par exemple, Ali Ribéi, vous comprenez toujours quand vous avez des gestes de colère? Zidane, c'est pareil, ces gestes de colère, ces cartons rouges, on ne les comprend pas chez cet homme qui est si doux. Donc pour pouvoir comprendre ça, dont l'extrême est le coup de tête, il faut vraiment entrer dans la profondeur de cet homme, saisir de quoi est faite la sensibilité d'un être humain, comment ça s'agence comme une galaxie et comment ça vient éclairer sa trajectoire.
Gilles Verwisch, vous vouliez réagir ?
Non, pas
non
spécialement.
D'accord, je voyais acquiescer, c'est pour ça. En tout cas, François Darrocha, le destin de Zidane raconte beaucoup de choses de notre société, notamment le football comme ascenseur social visible, alors qu'il est, il faut le rappeler, extrêmement difficile de devenir footballeur.
Ah, il est largement plus difficile de devenir footballeur professionnel que de devenir normalien.
Oui.
Que d'entrer à Normal Sup. C'est un travail excessivement prenant qui demande un investissement dès le plus jeune âge. Pour beaucoup, dès 10-12 ans, ils se retrouvent en centre de formation avec un taux d'échec incroyable. C'est notre collègue Hugo Juskoviac qui l'a montré dans sa thèse. Un pour mille, il y en a très très peu qui arrivent à devenir footballeur professionnel, et parmi ceux qui arrivent à devenir footballeur professionnel, il y en a très peu qui atteignent les sommets de la gloire. Donc oui, c'est un ascenseur social visible, mais l'exception par excellence.
C'est une mise en scène de l'ascenseur social ?
Oui, certainement une mise en scène de l'ascenseur social, d'autant plus que ça arrive à un moment où on a besoin d'identifier une intégration réussie.
Gilles Verwisch.
Oui, je suis très...
Là, vous avez des choses à dire.
Là, j'ai des choses à dire. Mais j'ai généralement des choses à dire. Mais effectivement... illusion peut-être de l'ascenseur social, parce que les footballeurs viennent plutôt de milieux populaires ou normaux, on pourra même dire, alors que pour être normalien, effectivement, faut venir, on va pas lire Bourdieu, mais on pourrait remarquer qu'il faut venir justement d'un milieu favorisé. En même temps, il y a quelque chose, je trouve, d'assez ambigu ou ambivalent encore dans cette image du sportif, parce que, comme vous le dites, c'est quasiment, c'est le chameau qui passe par le trou de l'aiguille pour y arriver. Donc, en même temps, il y a la culture, la philosophie, on pourrait dire, de l'effort, du travail pour y arriver, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'illusion d'y arriver un peu facilement comme ça, parce qu'il suffit de taper dans un ballon, c'est toujours la vanne. Hein. Ah oui, alors c'est des pauvres, 60 millions de pauvres qui regardent des milliardaires en train de taper dans un ballon. Donc il y a aussi l'image de la réussite facile, en plus avec l'image qu'ont renvoyé les joueurs depuis au moins 98, avec pas mal de contrats de pub, etc., où finalement on commence à se rendre à l'image de c'est de l'argent facile, c'est moins d'efforts. Bon, je voudrais pas parler de Neymar, mais j'aimerais bien en parler quand même. Mais bon, voilà. Je veux dire, c'est quand même le plus gros emploi fictif des 5 dernières années. Donc, dans le genre, je suis payé à rien faire, c'est pas mal comme image. Donc, c'est très ambivalent. C'est à la fois l'effort et la réussite facile, quoi, le joueur de foot.
Ouais, alors, pour ce qui est de la commercialisation, enfin, du lien avec les sponsors, dès l'avant-première guerre mondiale, on a des affaires de joueurs qui se servent de leur célébrité. Je pense au capitaine de l'équipe de France, Jean Ducret, pour faire la publicité d'articles sportifs. Donc c'est un phénomène qui est loin d'être récent. Mais c'est sûr que la génération 98 a explosé les scores en la matière.
Alors la génération 1998, c'est la génération dite black, blanc, beurre. Comment expliquez-vous que le football cristallise autant les questions identitaires? Chanter ou ne pas chanter la Marseillaise? Que raconte par exemple le cas Karim Benzema sur notre société française? Pourquoi suscite-t-il autant d'interrogations, de questionnements, notamment du côté de l'extrême droite sur les réseaux sociaux, François Darrocha?
Alors, d'une part,
du point de vue de l'historien,
d'une part, c'est quand même l'un des rares lieux où on voit les diversités qui composent la société française. Ensuite, pour l'extrême droite, il est très facile de faire le buzz, de créer la polémique. Jamais avant 1996, on a reproché à Raymond Coppa, à Michel Platini, de ne pas chanter la Marseillaise. C'est Jean-Marie Le Pen qui, en 1996, lors d'un meeting dans une mairie frontiste, commence à se lancer dans une diatribe en reprochant aux joueurs de ne pas chanter la Marseillaise et en réutilisant les arguments qui étaient utilisés par l'extrême droite à la fin des années 30, déjà contre l'équipe de France, à savoir que ce sont des mercenaires qui sont payés juste pour la pas du gain. Donc là, on a une identification facile, enfin une réalisation facile des propos racistes, parce que on voit la diversification de la société française. Où la voit-on par ailleurs? Lorsqu'on a une équipe d'équitation, une équipe de France d'équitation qui remporte le titre olympique en 2016, sur les 4 cavaliers, il y en a 3 qui ne chantent pas la Marseillaise, nulle part. On a vu un scandale éclater parce que les joueurs ou les sportifs de l'équipe d'équitation ne chantaient pas la Marseillaise. C'est pas le même milieu, c'est pas la même portée sociale non plus. Le sport hippique est beaucoup moins populaire, certes, mais de fait, il n'y a pas eu scandale.
Allez, racontez-nous votre amour ou votre horreur du foot au 01 45 24 7000. Dans un instant, nous verrons si on peut esquisser une psychologie générale du footballeur. En attendant, on écoute les Rita Mitsuko.
Hey Andy, hey Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez Andy quoi? Oh dis-moi oui! You, Andy! Dis-moi oui! We'll be right back.
Kenta Mitsuko interprété Andy.
Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil.
Grand bien vous fasse.
3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Sur France Inter.
10h33 et à l'occasion de l'Euro, nous nous demandons ce matin ce que le foot raconte de nous et de notre société. Racontez-nous votre passion ou votre désintérêt total pour ce sport au 01 45 24 7000. Écoutons Edgar Morin.
C'est comme, disons, le problème de la décision. Oui, on est obligé de faire un pari. À un moment donné, il faut faire le choix, c'est sûr. Donc nous sommes condamnés à la stratégie permanente, c'est-à-dire de naviguer avec de l'incertitude. Il faut connaître les intentions de l'ennemi, il faut avoir ses espions, il faut avoir ses reconnaissances, comme au football. Parce que dans le fond, pour faire une équipe de football, l'entraîneur doit faire la stratégie en fonction de ce qu'il pense être la stratégie du club adverse. Et que dans le fond, la contradiction du football, c'est que le jeu individuel et le jeu collectif. Parfois, il faut que le jeu individuel se sacrifie au jeu collectif ou l'inverse. Mais c'est toujours au dernier moment qu'on le sait. Mais si l'esprit est préparé à la complexité, il peut mieux trouver les solutions sur le moment.
Gilles Verviche, je rappelle que vous êtes professeur de philosophie. Que vous inspirent ces brillants propos d'Edgar Morin dans la grande librairie la semaine dernière ?
Ben d'abord qu'ils sont assez brillants, effectivement.
Merci d'être venu.
Voilà, au revoir. Hein. Oui, j'ai des choses à dire. Hein. Alors déjà sur l'incertitude, Camus, vous citiez, il a dit aussi « J'ai appris qu'une balle pouvait arriver de n'importe où et il faut savoir quoi en faire ». Après, c'est sur ce qu'il dit, effectivement, sur l'individuel et le collectif, quoi, qui paraît être la tension quand on voit des joueurs qui veulent absolument... Moi, je suis toujours déçu que les ballons d'or, par exemple, ce soit surtout des attaquants. Et ce que je trouve, c'est que le foot nous révèle l'illusion de l'individualisme, y compris en société. C'est-à-dire que l'attaquant pourrait croire que il brillerait plus. Chaque joueur se dit qu'il brillerait plus s'il n'y avait pas une équipe qui l'empêchait de se montrer. Et en même temps, j'imagine un Cristiano Ronaldo qui jouerait tout seul devant une équipe de 11, il pourrait rien faire. Voilà, donc. Et je pense que dans la société en général, de la même manière, l'individualisme est un peu une illusion. Le foot nous le révèle assez bien.
François Darrocha, historien, qui préfère les défenseurs aux attaquants.
Oui, mais pour la même raison, on a une forme d'illusion à voir des joueurs de foot qui ne sont là que pour marquer des buts. Non, ils sont là pour gagner et marquer un but de plus que l'équipe adverse.
Gilles Verviche, vous le rappeliez tout à l'heure, les règles du foot sont simples, mais ça n'empêche pas la complexité de la tactique. Il y a de la pensée complexe dans chaque action de foot.
Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on peut... Il n'y a pas seulement l'entraîneur, mais il me semble que les joueurs eux-mêmes sont plus intelligents qu'on les fait passer des fois pour des petits écarts de vocabulaire, voire d'orthographe. Mais effectivement, je crois qu'il y a une partie qu'on appelle typiquement cognitive dans le foot. Hein, c'est-à-dire que quand vous avez la balle, il faut quand même savoir où vous allez la mettre. Et la simplicité des règles n'empêche pas, effectivement, bien au contraire, la complexité de leur application par le joueur. Il doit penser à plein de choses. Enfin, j'avais appris plein de choses en cherchant un peu. Mais effectivement.
Et pourquoi peut-on concevoir le monde comme un match de foot ? Vous avez 3 heures pour répondre. Je cite votre livre de mémoire. Dans le monde comme dans le foot, tout est lié et le moindre mouvement d'un élément ou d'un joueur produit des effets sur tout le reste.
Oui, alors c'est ça, ça revient un peu... Alors déjà, j'en parlais par rapport à une question que je me suis toujours posée, que vous vous posez sans doute, c'est est-ce que le match aurait été différent si je l'avais pas regardé ? Voilà, alors j'étais parti de là, typiquement, quand vous êtes dans une soirée, oh, t'aurais dû être là, mais si j'avais été là, pourquoi ça aurait été la même soirée ? Ça veut dire que ma présence dans le monde compte si peu que ça aurait rien changé. Donc on se dit, c'est ridicule que j'éteigne ou que j'allume la télé, on pourrait penser que c'est un genre de superstition.
De pensée magique.
De pensée magique. Mais ça n'empêche, si j'avais été dans le stade, par exemple, et que je criais, imagine que il y ait personne, enfin ça change quand même les choses, voilà. Et de la même manière, effectivement, sur le terrain, c'est la même chose, qu'un joueur soit à cet endroit plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que ça nous montre, je parle de l'effet papillon, hein, vous savez, le vol battement d'aile d'un vol de papillon, effectivement, que tout est lié. Ça me semble pas si magique que ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je regarde ou pas la télé, que Benzema soit à cet endroit ou pas du foot, c'est un autre monde qui existe.
Et comment expliquez-vous qu'on aime autant refaire le match alors qu'on ne peut plus rien y faire. Les émissions ont refait le match, prolifèrent sur toutes les chaînes de télévision, à la radio.
Oui, alors moi-même, j'aime bien regarder les émissions de débrief.
Pourquoi
on aime ça ? Moi, j'y vois ce que Kant a appelé, ça fait bien, je fais de la philo, donc je suis occupé. Ce que Kant a appelé un libre jeu des facultés en, par, en parlant de l'art. Voilà, c'est-à-dire on est en train de parler d'un match de foot qui a déjà eu lieu, mais on se joue, c'est comme avec les statistiques, les pronostics, les chiffres, les pourcentages, voilà. C'est-à-dire que ça met en œuvre nos facultés plus ou moins intellectuelles pour pour du ludique, je vais chercher mon mot.
C'était joli le bug là.
Bah, voilà. En cours, ça m'arrive souvent. Hein. Je dis aux élèves, je bug.
François Darrochin.
On le fait avec des soirées électorales.
Oui,
on, bah, oui. On a les résultats, on commente, on débrief. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la fois d'après? Quels sont les problèmes qu'on a pu constater? Bon. Ben voilà, pour les matchs de foot, on le fait également, et c'est très bien ainsi.
Une question que vous posez également, Gilles Verviche, dans votre livre consacré au football. Quand on dit « on a gagné », ça veut dire quoi? Et vous le dites d'ailleurs, c'est à l'issue d'une pièce de théâtre, on ne dit pas « on a bien joué ». Ou après avoir vu Roméo et Juliette de Shakespeare, on ne dit pas « on s'est aimé
voilà. ».
Pourquoi on dit « on a gagné »
On s'est aimé. Alors déjà, on dit « on a gagné », mais ils ont perdu, évidemment. Hein, et ben ça revient un peu aux questions qu'on posait, je pense, un peu au début de l'émission, sur cette capacité qu'a le foot, parce qu'il est populaire, pour des raisons plus ou moins artificielles éventuellement, à incarner la nation, l'identité de la nation, une sorte d'échec ou de réussite par procuration. Vous évoquiez tout à l'heure l'histoire de la France black, blanc, beurre de 98. Alors peut-être qu'on surestime justement cette capacité du foot à résoudre tous les problèmes de la vie et en particulier de la vie de chacun. Je veux dire, moi, que la France soit championne d'Europe dans 15 jours ou pas, le lendemain matin, il va falloir quand même que j'aille au boulot, que je trouve un avenir, etc. Mais effectivement, c'est une manière, alors c'est ce que j'évoque, la vie par procuration, hein, on parlait tout à l'heure des foules sentimentales, là il y a la vie par procuration. Bon, après, si ça offre un moment de bonheur à tout le monde et de joie partagée, sentimentale, pourquoi pas, et tant mieux, et moi je suis le premier à le vivre. Maintenant, il ne faut peut-être pas se faire d'illusions sur la capacité de transformer la vie de chacun à long terme. Il faut aussi que chacun se prenne en main.
Sabine Calgary, vous êtes l'auteur de Dans la tête de Zidane.
Oui.
Vous vouliez peut-être réagir au propos de Gilles Verviche.
Oui, je pense un peu dans le sens de ce qu'il dit, que la finalité ultime du football, même au-delà de la victoire, c'est la joie, c'est la liesse. Oui. Je pense qu'en dernier ressort, chacun vise cette joie et cette liesse. Et ça change quelque chose pour les vies. De la même manière, quand on refait le match, je pense que c'est une sorte de conscience qu'on a des possibles dans l'existence. Parce que ce qui caractérise un match de football, c'est que contrairement à n'importe quelle pièce de théâtre ou série sur Netflix, le spectacle va pouvoir se jouer, se rejouer, on va pouvoir avoir une idée de la fin. Le match de football, il y a une intensité dramatique unique parce qu'il n'y a qu'une seule version. Il n'y a qu'un seul coup de tête de Zidane, qu'une seule main de Thierry Henry. Et ensuite, chacun se saisit de ça, refait le match, c'est-à-dire explore d'autres possibles. Et pour reprendre une phrase de Gilles Verviche tout à l'heure, ça fait une différence que vous regardiez ou non le match de football, parce que c'est la question de la conscience humaine. Enfin, il y a des théories qui commencent à être assez précises là-dessus. L'effet de l'observateur en physique quantique, dans des concentrations d'énergie, des focalisations d'énergie, ça fait une différence qu'on regarde. Alors, une différence infime à l'échelle individuelle, mais qui n'est pas inopérante. Et je pense que chacun, à travers le football, saisit qu'on peut atteindre à la joie et saisit aussi que chacun a une action sur les possibles.
Vous parliez de joie, Sabine Calgary. Oui. On peut également parler de beauté. Pour vous, la beauté chez Zidane, c'est l'une des clés de lecture pour le comprendre.
Oui, ça c'est ce que la psychanalyse appelle un signifiant maître, c'est-à-dire un mot qui, dans la vie d'un être humain, ordonnance l'ensemble de son monde. Et Zidane, qu'il parle de son couple, quand il dit « on est toujours ensemble, c'est beau », qu'il parle du football, qu'il parle de son lien avec son père, qu'il parle de son joueur préféré, Enzo Francescoli, c'est quand même pas une icône planétaire, mais c'est celui dont le football est beau. La beauté est présente partout chez Zidane, et c'est pour ça aussi, je crois, que son football nous touche. Parce que de la même manière que nous avons besoin de nous identifier à de la joie, à de l'espoir quand il s'agit d'ascenseur social, on a besoin aussi de s'identifier à de la beauté. La beauté console, la beauté élève, elle inspire.
Et je vous propose un peu de beauté, Sabine Calgary, avec Eric Libio. Et c'est chose presque vue.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Éric Libio pour sa dernière de la saison.
Oui, c'est vrai, vous l'avez dit Alice, c'est mon dernier match de la saison et on ne peut pas dire aujourd'hui que je joue à domicile, hein, le foot et moi ça fait 11. Mais je ne voudrais pas marquer contre votre camp Ali et j'ai bien lu de la tête aux pieds de Gilles Verviche afin de savoir ce que le foot raconte de nous. Enfin, de moi, il raconte que je préfère le rugby ou le handball, fin du match, tout le monde au vestiaire. Mais je reconnais que j'ai lu le livre sans déplaisir, car parvenir notamment à sélectionner dans ses pages Aristote, Emmanuel Kant, Zinedine Zidane, Pierre Ménès et Georges Perec, c'est tout de même admirable. Alors les quatre premiers sont des titulaires incontestables hein, dans un livre traitant de football et de philosophie. Mais Perec, je ne l'ai pas vu venir comme un appel de balle dans le dos. Et tout à coup, je me suis surpris à relever un sourcil. Pardon. Vous y faites allusion, Gilles Verviche, à propos de la disparition, roman écrit sans la lettre E. Et vous dites qu'utiliser cette contrainte a poussé Perec à faire preuve d'imagination. Et le hors-jeu, je résume, est une contrainte. Ça permet aux joueurs de faire preuve d'imagination. Me voilà en terrain beaucoup plus connu. Hein, Perec, la disparition, l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle à laquelle appartenait Perec, donc Raymond Queneau, Italo Calvino en leur temps et Hervé Le Tellier, aujourd'hui auteur de l'Anomalie, prix Goncourt 2020 et gros succès de librairie. Ces écrivains s'imposent des contraintes des plus compliquées aux plus simples. Hein. Une des plus compliquées est le bicarré latin orthogonal d'ordre 10, utilisé par Perec, encore lui, pour écrire La vie mode d'emploi. L'une des plus simples est la littérature définitionnelle, qui consiste à transformer un texte en remplaçant chaque mot par sa définition dans le dictionnaire. Je signale d'ailleurs qu'on peut trouver tous ces jeux de lettres dans l'Atlas de littérature potentielle paru chez Folio et que c'est une excellente lecture d'été. Ce sont les lettres sans le néant. Ça y est, j'arrive presque au but de cette chronique. Ali, il était temps, vous me direz, mais un match, ça se construit, hein, ça ne se joue pas n'importe comment. Et dans votre livre, Gilles Verviche, vous évoquez donc la règle du hors-jeu. Règle difficilement compréhensible pour qui n'aime pas le foot, mais c'est surtout qu'on s'en fout un peu, mais bon, admettons. Vous en donnez cette explication-là. Le hors-jeu est une position particulière occupée par un joueur qui se définit de la façon suivante. Si un joueur est placé sur le terrain de telle manière qu'il n'y a pas au moins deux joueurs, y compris le gardien, entre lui et le but adverse, c'est effectivement incompréhensible. Il faut donc passer en littérature définitionnelle et donner à chaque mot sa définition. J'ai donc utilisé un Larousse illustré de 98, date de la première victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai encore un dictionnaire de 98 chez moi, je n'en sais strictement rien. Et donc voilà ce que ça donne. Le hors-jeu est une situation dans l'espace propre à quelqu'un pris par une tâche, par une personne pratiquant un jeu qui précise les caractéristiques de la manière d'être suivante. Si une personne qui pratique un jeu est placée sur l'espace de terre considérée du point de vue de sa nature de telle façon particulière qu'il n'y ait pas au moins deux personnes qui pratiquent un jeu, y compris le dernier défenseur du but d'une équipe de football, entre lui et le point matériel adverse que l'on vise, c'est effectivement beaucoup plus clair, vous en conviendrez. Et je vous propose, Ali, que pour la saison prochaine, vous utilisiez cette contrainte pour poser vos questions dans votre émission au nom ainsi transformé, grand bien vous fasse, l'existence humaine qui revient chaque jour en notice expliquant la manière de l'utiliser. Quant à cette chronique, en voilà le nouvel intitulé, objet inanimé, pas tout à fait perçu par les yeux, qui peut être aussi la définition d'un ballon de football, finalement.
La dernière chronique d'Éric Libio de la saison, j'imagine vos fans éplorés comme Annick Dupoitou, fidèle auditrice, qui nous a d'ailleurs envoyé des macarons de Montmorillon. On vous en donnera tout à l'heure.
Vous avez gardé pour vous, donc.
Ils sont au bureau, vous pourrez en prendre quelques-uns tout à l'heure. Et on se retrouve évidemment, mon cher Éric, avec grand plaisir, la saison prochaine. Dans un instant, on s'intéresse donc à la psychologie du joueur, et puis on s'intéresse également à ces joueurs hein, qui peuvent nous inspirer dans la vie. En attendant, on écoute Amethyst Kaya. Amitiskaya, Black Myself.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
10h49 et à l'occasion de l'Euro, nous nous demandons ce matin ce que le foot raconte de nous et de notre société. Je vous propose d'écouter l'écrivain Olivier Guèze qui vient de publier Une passion absurde et dévorante.
Effectivement, le football m'a permis d'apprendre énormément de choses. Je me revois gamin dans mon lit le matin, je sais pas, j'ai 8, 9, 10 ans, et puis je regarde tous les tirages au sort des Coupes d'Europe. Et donc j'apprends toutes les villes du bloc de l'Est, mais toutes les villes d'Europe en fait. Et puis il y a les matchs, et puis il y a tout ce qu'il y a autour au fur et à mesure. Et c'est un viatique extraordinaire, parce que vous pouvez parler de football à la planète entière et à toutes sortes de personnes. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a aucune frontière sociale dans le football. Mais ça, c'est intéressant.
François Darrocha, historien, c'est formidable ce que vient de dire Olivier Guèze.
Oui, le football a cela de commun avec la philatélie, c'est qu'il permet d'apprendre des cartes autrement.
Et de parler à tout le monde.
Mmh. Oui,
parler au-delà des classes sociales, des origines sociales, ethniques, religieuses, etc. Ouais, c'est ça qui est formidable avec le foot.
Pour faire plaisir à une des intervenantes, Zidane est connu à travers le monde. Mmh. En effet, c'est un lieu commun que de le dire. Alors, les États-Unis mis à part, et puis quand même un peu l'Inde, et puis quand même un peu la Chine. Comme quoi, on réduit quand même le monde à nos proches, finalement. Mais c'est vrai qu'on peut parler de football à des gens de milieux ou de nations très, très diverses.
Alors, beaucoup d'auditeurs nous demandent s'il existe une psychologie propre aux footballeurs. Un cliché tenace veut que le footballeur soit individualiste, égoïste. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Givervis, qui n'êtes pas psychologue, mais philosophe?
Voilà, donc je vais faire le fameux ultra-crépidarianisme, pour parler de ce que je ne connais pas. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, je pense que les joueurs... ce que je disais tout à l'heure, hein, la tension... D'abord, j'ai dit que les joueurs de foot étaient sans doute moins idiots qu'on pouvait le penser, puisqu'il y a tout un rapport complexe cognitif au terrain et à ses partenaires. Et ensuite, que ceux qui sont individualistes se plantent. Voilà, c'est-à-dire, je pense que... Parce que le tout est autre chose que la somme des parties. Voilà, c'est-à-dire, vous pouvez, paradoxalement, vous pouvez avoir une attaque qui est faite des 3 meilleurs attaquants du monde, ce qu'on a un petit peu en France, voilà, c'est pas pour ça que ça fera la meilleure attaque du monde, voilà.
François Darrocha.
Oui, c'est vrai, c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut penser la constitution d'un groupe en matière d'équipe nationale, ce ne sont pas obligatoirement les meilleurs joueurs qui forment le meilleur groupe.
Sabine Calgary, je rappelle que vous êtes psychanalyste, au-delà du cas Zidane, est-ce qu'on peut esquisser une rapide psychologie du footballeur?
Oui, alors ce qui est fascinant, c'est à quel point l'inconscient est présent dans le football. On pense que c'est un jeu de corps, où ce sont les qualités physiques qui sont au premier plan, et le mental, et plus spécifiquement l'inconscient, c'est-à-dire ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes, a rendez-vous avec vous sur le terrain. Ce qui me frappe, par exemple, c'est Benzema en ce moment. Benzema, c'est fascinant de voir à quel point il donne au collectif, il est dans un mouvement fluide comme celui qui fait ses grandes qualités, et à côté de ça, c'est comme s'il vacillait devant le geste individuel. Donc lui, c'est presque un contre-exemple à ce qu'on est en train de dire, à l'individualisme. C'est l'anti-Cristiano Ronaldo, par exemple, qui lui ne vacille pas devant le geste individuel. Benzema vient de rater un pénalty, il vient de rater un but sur une passe magnifique. Donc là, on voit que ça n'est pas du physique, c'est le mental qui est là, et même cette part du mental que le joueur lui-même ne connaît pas, c'est son inconscient avec lequel il a rendez-vous. Et je pense que c'est passionnant, enfin pour moi c'est émouvant de voir qu'à travers ces figures qui ont l'air tellement solides, c'est des forces de la nature, ce qui est les failles de leur inconscient ou leur part d'ombre, leur peur, c'est peut-être ça chez Benzema, des peurs qui le rattrapent, sont présentes dans un geste de football. Je trouve ça beau sur l'être humain.
Bonjour Marie-Christine, bienvenue.
Oui.
Vous appelez d'où Marie-Christine? D'où appelez-vous Marie-Christine?
Des Landes.
Ah, très bien. Donc, que vous inspire notre conversation?
Alors, si vous voulez, d'abord, je trouve très très intéressant parce que moi, je suis le foot régulièrement. Mm-hmm. Mais ce que je voulais vous dire, je voulais juste revenir sur le tout début quand vous avez présenté. Vous avez parlé de 22 acteurs.
Mm-hmm. Ah oui.
Je pense que vous oubliez l'arbitre.
Ben oui, vous avez raison.
Et l'arbitre fait partie, et les arbitres font partie de la partie du match. Et très souvent, ce que je trouve, c'est qu'on rejette, surtout quand il y a un échec, la responsabilité à l'arbitre. Et là, vous parliez de mental, vous ne pouvez pas imaginer le travail de mental qu'il faut d'arbitre pour tenir pendant tout un match de 90 minutes. Et voilà, c'était juste ça.
Vous avez totalement
oublié les arbitres.
Vous avez totalement raison, Marie-Christine. Restez avec nous. Est-ce qu'on a un arbitre qui nous a appelé au standard? Bienvenue, Zakaria.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous, Zakaria?
La métropole lilloise.
Donc vous êtes arbitre, c'est ça? Dans quel club? Enfin, dans quelle ville?
Dans les Hauts-de-France, en fait.
D'accord.
Dans la région Hauts-de-France.
Alors, que nous inspire ce que vient de nous dire Marie-Christine?
Je ne peux qu'abonder dans le sens de Marie-Christine, forcément. Parce qu'effectivement, il y a une dimension physique, athlétique, parce qu'on doit courir au moins en tant que les joueurs, mais il y a aussi une dimension psychologique, d'adaptabilité. On n'arbitre pas toujours les mêmes joueurs ni les mêmes clubs. Et il y a forcément cette dimension sociétale qui rentre en compte à chaque rencontre. Et c'est le propre de l'arbitre, justement, de pouvoir s'adapter tout en imposant forcément les règles du jeu et protéger le jeu, également les joueurs. C'est le plus important.
Quelles sont les qualités psychologiques d'un bon arbitre, Zakaria?
Faire preuve de calme, de sang-froid, de pas avoir peur de prendre des décisions qui ne sont pas populaires et de montrer une forme d'autorité naturelle sans sombrer dans l'autoritarisme ou dans l'excès de force.
On devrait s'inspirer des arbitres, hein, Gilles Verviche, hein, beaucoup plus souvent.
Ben oui, c'est ce que, en fait, moi j'ai pour le livre, j'étais parti de ça, en fait, parce que j'expliquais un peu ce qu'était la justice et la nécessité d'un arbitre entre deux personnes qui n'étaient pas d'accord pour parler de l'arbitre. Non, mais quand on parlait tout à l'heure du débrief après les matchs, moi j'avais peur que avec le recours à la vidéo, les débats allaient se tarir. Mais en fait, pas du tout. C'est très très bien parce que en fait, la vidéo ne permet pas de mieux voir ce qui s'est passé, mais de voir encore autre chose et de encore lancer des débats. Donc pour refaire le match, c'est toujours aussi bien.
Merci beaucoup Marie-Christine et Zakaria de nous avoir appelés. Alors au terme de cette émission, pouvez-vous nous dire quels sont les joueurs de foot qui vous inspirent encore et toujours dans votre vie, François Darrocha?
Des dizaines.
Et qui vous accompagne, voilà, qui vous inspire.
Je pense à Marius Trésor parce que une certaine forme de sécurité, une certaine
d'autorité.
Forme d'autorité. Non autoritaire, non autoritariste. Je pense, ça a été cité tout à l'heure, à N'Golo Kanté, parce que là aussi une discrétion, une efficacité qui est incompatible avec les images de zapping que l'on peut voir lorsqu'on résume le match de foot aux quelques secondes de but. Voilà, un Raphaël Varane, enfin, que des défenseurs ou des milieux défensifs de toute façon.
Gilles Verviche.
Un peu pareil. Bon, j'aurais pu vous dire Socrates, hein, qui était un joueur de football, mais c'est trop facile.
Qui est philosophe aussi, d'ailleurs. Voilà.
Accessoirement.
Il en a fait des choses, hein. Vous voyez, on peut faire les deux. Moi, alors. Plutôt, alors, dans le sens de Kanté, Didier Deschamps, mais moins le sélectionneur que le joueur, en fait, pour la Coupe du Monde 98. Moi, j'ai le souvenir d'un milieu de terrain. Si tu sais pas quoi faire de la balle, tu la donnes à Didier, lui, il saura quoi en faire. Voilà. C'est-à-dire, on parlait d'incertitude tout à l'heure. Je pense que quand les joueurs se demandent, je sais plus quoi faire de la balle, j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on voulait s'en débarrasser, on la donnait à Didier, et lui, il savait quoi en faire. Donc, en tant que milieu de terrain, j'ai trouvé toujours très performant.
Pour ma part, c'est le joueur de foot irlandais mythique, George Best, qui a essentiellement joué à Manchester. C'est son panache. Et sa vie aussi, hein, et les citations qu'il a laissées. Je le cite. J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. Et je vous recommande d'ailleurs la lecture de George Best, le cinquième Beatles de Vincent Duluc. Vincent Duluc est quand même, sans doute, à mon humble avis, mais vous le partagez, je crois, Eric Hilliot.
Oui. Et Marie-Laure et moi, vous ne demandez pas quel joueur de foot.
C'est l'un des meilleurs journalistes sportifs. Eric Hilliot.
Ben moi, c'est Franz Beckenbauer, parce que d'abord, je suis plus vieux, et puis, entre la lutte entre Beckenbauer et Cruyff, je préfère toujours les défenseurs, les mecs laborieux, quoi. Entre Lendl et Sampras, je préfère Lendl. Entre Djokovic et Nadal, je préfère Djokovic.
Et Marie-Laure Sunshine.
Une image, Laurent Blanc embrassant le crâne de Fabien Barthez. L'esprit d'équipe, on n'en a pas parlé. Et c'est beau, ça aussi, dans le foot.
Sabine Calgary, je vous pose pas la question.
Oui, pour moi qui aime la danse, j'aime ceux qui sont dans l'élégance, dans la beauté du mouvement. Donc Zidane, Benzema maintenant, j'aime l'élégance de Griezmann face à fluidité. Voilà, j'aime des footballeurs danseurs.
qui nous inspire au quotidien.
Chakiri,
merci à tous. Merci à Gilles Verviche et merci François Darrocha et Sabine Calgary. Toute la bibliographie est à retrouver sur le site et l'appli de France Inter. Demain, on s'intéresse à l'intelligence animale. Pour l'ours que vous êtes, l'ours grognon que vous êtes, Éric Thibiot, c'est pour vous.
Je vais écouter.
À demain.